19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme tous les jours d'ailleurs, nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi dit un beau week-end qui est en train de s'installer. On va vous accompagner durant une heure jusqu'à 20h. 20h, nous sommes ensemble, ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité, mesdames et messieurs. Et quelle actualité ! Alors au menu ce soir, ce que je vous propose, tout d'abord nous irons nous intéresser au standard, au 01 53 48 3000, avec deux sujets qui préoccupent nos auditeurs. Cette fameuse troisième dose, ce fameux pass sanitaire, notamment, et puis surtout ce test salivaire, l'autotest pour les écoles dès la sixième. Comment allez-vous faire avec, évidemment, vos enfants, vos gamins ? Est-ce que vous allez les faire autotester ? Avant d'aller à l'école, je vous le rappelle, c'est deux autotests. C'est une demande concrète du ministre de l'Éducation nationale. Donc on va en parler dans une poignée de minutes au 0150. D'ailleurs, dès maintenant, le standard est ouvert. 0153483000. Mais également aussi, qu'est-ce que j'ai reçu de messages concernant la préoccupation de celles et ceux qui sont très inquiets, qui se retrouvent coincés au Maroc, puisque les vols sont suspendus entre le Maroc et la France, inquiet évidemment le Maroc, compte tenu de la crise sanitaire et de la situation sanitaire en France. Eh bien, le Maroc a décidé, dans un premier temps, de suspendre ses vols jusqu'à ce soir minuit. Et puis, elle a laissé, évidemment, aux voyageurs le temps de s'organiser jusqu'à dimanche prochain, minuit, donc dans deux jours et demi un peu plus. Alors comment comptez-vous vous organiser ? Est-ce que certains d'entre vous avaient prévu des voyages d'affaires, des voyages de tourisme, bref, un voyage tout court ? On les attend au 01 53 48 3000, et y compris pour les aider, puisque tout à l'heure, nous serons avec le député du Maghreb, donc député français, Mjid El Gherab, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous apporter les tout derniers éléments. Ensuite, 19h30, Michel Taube et son édito qui viendra nous parler, vous savez quoi, des migrants. Le naufrage à Calais qui suscite une énorme polémique, une terrible tragédie du jamais vu depuis évidemment des années et des années. Et puis ensuite, vous savez, le face-à-face. Tiens, c'est pas le face-à-face là, c'est vraiment quatre débatteurs influenceurs, dont un que vous allez connaître ici même sur notre antenne, David Lebinski, qui est avocat au barreau de Paris, animateur à Quartier Général. Il soutient également les Gilets jaunes, il est avec nous en direct. Voilà le programme qui vous attend, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est parti en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h03, tout de suite, le standard est ouvert.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Sur les deux sujets, je vous le disais tout à l'heure, à la fois sur le test, puisque Jean-Michel Blanquer annonce, le ministre de l'Éducation nationale, deux autotests par semaine en classe de 6e dès ce lundi. Mesdames et messieurs, est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous, parents, vous allez contribuer, évidemment, et participer à faire ces autotests qui est fourni par l'Éducation nationale aux élèves de 6e à partir de lundi prochain ? Je voudrais vous entendre, les amis auditeurs. Je voudrais vous entendre partout en France nous dire, est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous allez pratiquer cet autotest à votre enfant avant d'aller à l'école, puisque l'Éducation nationale a reçu comme consigne face au regain de l'épidémie du Covid-19 qui devient très très important, et bien la circulation est rapide chez les jeunes enfants. Et donc, Jean-Michel Blanquer a décidé, donc, ce matin, l'instauration de deux autotests. 01 53 48 3000. Le standard est ouvert. Est-ce que vous allez le faire à vos enfants dès la sixième? Je vous attends. À tout de suite. Tiens, je vais accueillir David Lebinski. Bonjour, maître.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va.
Plaisir de vous avoir ici même en direct.
Bah, moi aussi.
Avant de retrouver les débatteurs.
De vous rencontrer.
Absolument. Maître Lebinski, David, il est avocat au barreau de Paris.
Tout à
animateur
fait.
De Quartier Général.
Tout à fait, sous la direction d'Aude Lancelin.
Aude Lancelin, qu'on a reçu régulièrement ici, oui. Je vous le rappelle. Vous le saviez ?
Non, je ne le savais pas.
Votre patronne, on l'avait reçu ici, indirectement, ouais. Bien sûr. Vous animez donc un programme sur les gilets jaunes.
Tout à fait. En fait, j'anime un programme maintenant depuis près de 2 ans.
Oui.
Qui s'appelle Quartier Jaune, donc au sein du média Quartier Général, et je fais des interviews des figures emblématiques des Gilets jaunes, des intellectuels, par exemple spécialistes des violences policières. On fait des débats, on fait beaucoup de débats en ce moment, parce que les présidentielles se profilent à l'horizon, et il y a une forte demande citoyenne qui veut porter leur voix. Donc on fait pas mal de débats aussi.
Et ça s'appelle Quartier Jaune.
Voilà, c'est Quartier Jaune. Je vous invite en fait à consulter Quartier Jaune, c'est Quartier Général, disons. C'est sur Facebook, YouTube et Twitter.
Voilà. Eh bien écoutez, en plus ça marche bien, il me semble.
Ça marche très bien.
J'ai vu le nombre.
C'est quoi ouais, ça marche bien.
C'est le modèle économique, c'est quoi c'est,
Le modèle économique, nous sommes un média indépendant, qui ne dépend pas des puissances financières ou d'un financeur quelconque.
J'aime vous donner la fiche, vous donnez, le, vous donnez la couleur, vous. J'aime bien tout de suite. Nous ne sommes pas financés par les industriels ni par.
Non, mais c'est important de le dire. Parce que la majorité.
Vous tenez à votre liberté de.
Tout à fait, la liberté d'expression, à notre liberté éditoriale. Les médias comme CNews ou BFM, on sait qu'en fait ils sont financés par des multinationales, et donc voilà, il fallait un espace en fait de médias indépendants où les animateurs ou les journalistes pouvaient dire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils aient leur propre liberté d'expression, et donc Quartier Général est financé par les citoyens par abonnement. C'est un autofinancement. La première diffusion est gratuite. Enfin, la première diffusion des émissions est gratuite. Mais en tout cas, c'est un autofinancement. Et ça marche très bien. Il y avait, depuis le mouvement des Gilets jaunes, de toute façon, il y avait une forte demande de ce type de médias. Bon, on connaît, il y avait déjà le Média TV, mais bon, qui était un petit peu, allez, politisé, on va le dire, à l'extrême gauche. Là, c'est un média complètement indépendant. Et tous les jours.
Quelle est la politique éditoriale de Quartier Libre, Quartier Général, pardon?
Nous n'avons pas de politique éditoriale. Aude Lancelin n'a pas de politique éditoriale. Rien n'est imposé, en fait, aux journalistes ou aux animateurs. Moi, je choisis mes invités. Généralement, il y a aucun.
Vous a pas donné des consignes de
pas
ton,
du tout.
La manière dont vous devez mener vos interviews.
Non, je peux vous assurer,
vraiment.
Oui, vraiment. Là, c'est vraiment.
Les journalistes sont plutôt de quoi? De tendance de gauche, de droite, de centre droit.
Peut-être une tendance de gauche.
Oui.
Mais bon, j'aime pas de dire tendance de gauche ou de droite parce qu'on est avant tout un média complètement indépendant. Et il n'y a pas de ligne éditoriale. Après,
aucune connotation.
Il n'y a aucune connotation, tout à fait.
On
parle en fait des sujets qui ne sont pas discutés ou débattus sur les médias traditionnels.
Dernière interview que vous avez menée dans Quartier Jaune, sur Quartier Général.
Alors, la dernière interview que j'ai menée, c'était Clara Eger. Clara Eger, qui est une candidate en fait à la présidentielle.
On ne la connaît pas.
Dont personne n'a parlé.
Non.
Voilà, qui est candidate. Alors, si vous voulez, son projet, c'est instituer un référendum d'initiative citoyenne, de façon à ce que le peuple soit consulté régulièrement. Voilà, c'est une candidate en fait, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Fabrice Grimal, il y a plein d'autres candidats citoyens en fait qui ne sont pas diffusés.
Votre volonté, c'est quoi, maître David Lebinski, pardon, c'est de d'accueillir les gens, les personnalités qui sont candidats dans le cadre de cette présidentielle qui ne sont pas connus, c'est-à-dire des candidats citoyens.
Vous voulez
accueillir tout le monde, candidats.
Pour l'instant, ce sont des candidats citoyens qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui n'ont jamais eu de mandat. Et il est important, en fait, qu'ils puissent s'exprimer au même titre que les candidats, si j'ose dire, politiciens professionnels. C'est important, en fin de compte, que c'est eux qui vivent le quotidien. Les politiciens professionnels sont souvent déconnectés du réel. En fait, ils font carrière dans la politique, mais ils ne voient pas vraiment, en fait, les problèmes quotidiens des gens. Alors que les candidats citoyens, ce sont des gens, évidemment, issus de la société civile, qui travaillent comme tout à chacun, comme chacun de nous, et qui connaissent les problèmes de terrain. On ne va pas soutenir, évidemment, un candidat citoyen, mais en tout cas, il est important, en fait, qu'un média leur donne la parole. Il y a aussi Anas, peut-être que vous connaissez, de Révolution Permanente, qui est passé aussi sur Quartier Général. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui, mais il a un droit de parole au même titre que tous les candidats à la présidentielle.
Maître David Lebinski, vous soutenez les Gilets jaunes. Pour quelle raison vous avez décidé? On vous connaît aussi parce que il y a des personnalités comme Jérôme Rodriguez, Fawzi Lelouch, avec lesquels vous êtes très proche. Pour quelle raison vous avez décidé de les accompagner, de les soutenir? Est-ce que c'est un soutien juridique? C'est quel type de soutien auprès des Gilets jaunes?
Alors, si vous voulez, moi, mon bureau, il est situé vers Étoile. Et rappelez-vous, en novembre-décembre 2018, les manifestations, si je veux dire, avaient lieu à Étoile. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, je fumais ma cigarette, j'étais en pause cigarette, et sur l'avenue Hoche, il y avait du gaz sur toute l'avenue. Donc, en fait, des Gilets jaunes se sont réfugiés dans l'immeuble où je travaillais.
Qui abrite vos locaux.
Voilà. Mmh. Et en fait, j'étais ému. Parce que je, si vous voulez, bon, je me suis rendu compte en fin de compte que c'était des prévôts manifestants, parce que moi, j'avais l'occasion de faire des manifs, les manifs du 1er mai, par exemple, je faisais chaque année, vous voyez, la fête du travail. Et là, j'ai vu que c'était des prévôts manifestants, des provinciaux, ils m'ont touché, et ils avaient des revendications tout simples,
vivre. Parce que vous avez échangé avec eux, touché par quoi? Par leur comportement? Par leur combat? Quoi?
J'ai été touché, je vais vous dire honnêtement, par le comportement. Parce que j'ai découvert en eux une pureté, une certaine naïveté qu'on ne trouve plus en fait.
Oui.
Et donc à partir de là, je me suis dit c'est des personnes sincères. Ils ont des revendications très simples. Hein, c'était le mieux vivre, hein, le pouvoir d'achat, puis le RIC, hein, le fait d'être consulté régulièrement sur les décisions politiques. Et je me suis dit voilà, c'est bien. Donc je les ai rejoints et il y avait c'était une population, c'est toujours d'ailleurs une population hétéroclite, les Gilets jaunes.
Oui.
Des gens qui n'étaient pas forcément dans politisés. Donc c'était voilà, donc c'était touchant et des gens qui étaient souvent issus d'une catégorie sociale modeste.
Oui.
Hein, même s'il y avait un petit peu de tout quand
et
même.
Quelle a été votre forme de soutien juridique? Alors, voilà, ou humaine?
Voilà, j'ai eu un soutien humain combatif, c'est-à-dire j'ai fait 70 actes, je continue à manifester. Alors pas tous les samedis, et puis un soutien juridique. Voilà, un soutien juridique bénévole. Donc je les ai assistés lors des audiences correctionnelles, lors des gardes à vue, parce qu'il faut savoir en fait tous les gilets jaunes qui ont été condamnés, 99% n'avaient aucun casier judiciaire, hein, donc ils connaissaient pas les arcanes de la justice, donc c'était difficile en fait pour eux de se retrouver devant la justice, c'était complètement kafkaïen. Alors il y avait ça, donc le soutien juridique et évidemment le soutien aux familles, parce que faut savoir en fait que quand une personne est en garde à vue, les familles ont besoin d'être informées.
Maître David Lebinski, où en est-on aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes? On n'entend plus du tout parler d'eux d'ailleurs, ou presque. Que s'est-il passé? Je sais, vous n'êtes pas le porte-parole, mais je vous pose la question.
Mais les Gilets jaunes existent toujours. Hein. Samedi dernier, il y a eu le troisième anniversaire des Gilets jaunes.
On a suivi.
Hein, voilà, vous avez vu la masse qu'il y avait à Paris. Hein. Il y avait à peu près entre 5 000 et 10 000 personnes dans les rues de Paris, à Bercy. Mais bon, dès lors que les médias les plus écoutés, donc CNews, BFM et d'autres, France 2, TF1, ne diffusent pas l'information,
oui,
pour les gens, les Gilets jaunes n'existent plus.
Il y a une volonté délibérée des médias généralistes de ne plus parler du mouvement. Vous ne pouvez pas dire ça, Maître David Lebinski.
Si, c'était le cas. Les violences policières.
La couverture a été même suffisamment, évidemment.
Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui, mais de quelle façon? Mais de quelle façon? Pour les dénigrer, pour les traiter de racistes, d'antisémites, d'extrême droite, et pour ne pas parler des violences policières. Moi, je me rappelle quand il y a eu les violences policières en novembre-décembre, janvier 2019, aucun média n'en parlait. Alors, il parlait effectivement des poubelles brûlées ou des tabassages, etc., ou voilà, des manifestants qui étaient peut-être un petit peu virulents et violents, mais en tout cas, les blessés, les éborgnés, ils ont mis un mois et demi pour en parler, alors qu'ils avaient été éborgnés depuis un mois et demi.
Jérôme Rodriguez
et plein d'autres, il n'y a pas que
cette figure, justement.
Hein, voilà, tout à fait.
Du mouvement des Gilets jaunes.
Il y a eu 30 personnes.
Vous le connaissez bien.
Tout à fait, ouais, c'est un ami. Il y a eu 30 personnes qui ont été répertoriées, en fait, éborgnées, entre guillemets, même si j'aime pas ce nom, en fait, et déclarées. Ça veut dire qu'il y en a eu plus, hein. Pour moi, en fait, à mon avis, il y en a eu le double. Parce que
Qu'est-ce que vous regrettez dans tout cela?
Mais je ne regrette rien, en fait.
Rien.
En fait, je ne regrette rien. Le seul problème, c'est que les revendications des Gilets jaunes n'ont pas été écoutées. Les Gilets jaunes n'ont aucun problème, en fait. Ils veulent dialoguer avec le pouvoir. Mais en fin de compte, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont jamais voulu dialoguer, ou ils ont organisé des fausses rencontres. Donc, de toute façon, le mouvement, il continue. Alors, de façon haute, il y a les manifestations, mais il y a plein de gens qui se sont rassemblés dans des groupes, qui travaillent sur une nouvelle constitution, qui travaillent sur l'économique et sur le social. Alors évidemment, comme on en parle très peu dans les médias, ça reste invisibilisé. Mais
c'est le président Emmanuel Macron décide de provoquer une réunion à l'Élysée avec quelques figures emblématiques.
Je le mets au défi. Autrement, de toute façon, le mouvement il va continuer. Ça là-dessus, c'est comme un secret. Depuis 3 ans, ce mouvement continue. Alors certes, il est un peu invisibilisé par les médias, mais il continue. Les gens, ils travaillent. Ils sont toujours déterminés. Je vous dis, à l'anniversaire, il y avait entre 5 et 10 000 personnes.
Bon, écoutez, on va suivre tout ça, évidemment, avec beaucoup d'attention. David Levitsky, maître David, pardon, Levitsky, vous êtes aussi là pour débattre, confronter votre point de vue, y compris avec Emmanuel Duby. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va, mon cher Emmanuel ?
Bonsoir maître.
Bonsoir.
Oui, tout va
ça
bien.
Ça va très bien, bah oui.
Le patron de l'Ipse.
On court.
Ouais, ça court, je vois ça. Mais la course médiatique plutôt pour vous, hein ?
Pas seulement.
Je vous vois partout là. C'est quoi cette omniprésence partout des médias là ? Partout, je vous vois partout là. Mec, il est, je tourne ma tête, il est sur une chaîne, l'autre tête, il est. À quel moment vous vous retrouvez face à vous-même ?
Ben là, je me suis retrouvé face à mes étudiants aujourd'hui parce qu'il faut que je leur consacre un petit peu de temps aussi.
Oui, c'était quoi l'enseignement aujourd'hui ? La thématique de vos cours ?
Deux thématiques, géopolitique de la Méditerranée pour mes étudiants de master et politique de défense.
Est-ce que j'ai le temps d'appeler le député ? Non, après la pause. Bon, non, tout de suite maintenant ? Non. Alors le réalisateur me dit non. Parce qu'on va laisser un... Vous savez quoi ? Vous êtes au courant puisque je vous ai vu réagir dans les médias. Le Maroc a décidé de suspendre les vols.
Donc jeune, en Afrique, direction... jeune Afrique, là, l'article est sorti il y a une demi-heure.
Ouais. Et bien, écoutez, on va en parler tout de suite après la pub 01-53-48-3000. Je vous attends également au standard. Le député Mjid El Gherab, que vous connaissez certainement, il est avec nous dans une poignée de minutes. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
19h22, tout de suite l'invité concernant donc les vols qui ont été suspendus entre le Maroc et la France.
Les informer, l'interview.
Dites-moi, je vais accueillir d'ailleurs monsieur le député Mjid El Gherab, député de la 9e circonscription des Français établi en hors France, et vous êtes notamment le membre de la commission des affaires étrangères. Bonjour monsieur le député.
Bonjour Adil, ça va ?
Mais très bien, très bien. Merci en tout cas de consacrer quelques minutes en direct dans les informés, justement, face à l'inquiétude montante concernant donc la situation, la crise sanitaire, évidemment. On a fait le point donc sur la situation de la crise sanitaire hier, donc avec le ministre donc de la Santé, Olivier Véran. Aujourd'hui, hier même, le Maroc, les autorités marocaines ont décidé de suspendre tous les vols depuis le Maroc et depuis la France. Alors, première étape, c'était jusqu'à ce soir minuit. Et ils ont décidé, les autorités marocaines, de repousser jusqu'à dimanche minuit. Alors, est-ce que on peut revenir avec vous sur, évidemment, cette décision, monsieur le député ?
Oui, avec plaisir. Quand la décision est tombée hier, toute l'après-midi, il y a eu les rumeurs, etc. Et puis après, on a eu la confirmation par le ministère des Affaires étrangères marocain. Mais j'ai tout de suite provoqué un live pour essayer de répondre aux gens sur ma page Facebook. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes. Ça montre le niveau de relations qu'il y a entre la France, notamment, et le Maroc, et la population qui circule entre les deux pays.
Absolument. Je vous remercie parce que je vous ai invité, notamment, monsieur le député, monsieur Mjid El Gherab, parce que j'ai reçu pas mal de messages, concernant la situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation extrêmement embarrassante? Par exemple, je vous livre quelques messages que j'ai reçus, moi, tout à l'heure. On nous a dit qu'on ne trouve aucun vol pour donc rentrer du Maroc en France. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, là ? Cas de figure concret.
Non, du Maroc vers la France, je pense que les gens ne doivent pas trop s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, les vols dans cette direction-là ne vont pas s'arrêter.
Ben si, on nous a annoncé dimanche minuit.
Mais il va y avoir... Je vous le dis, et la France va travailler à ça, des vols de rapatriement comme on a fait l'année dernière, c'est-à-dire des avions qui vont partir à vide de France et qui vont repartir remplis du côté Maroc-France.
Oui.
Donc que les gens ne soient pas non plus trop en panique et qu'ils fassent confiance aux autorités françaises et aux autorités marocaines. Une personne bloquée du sens Maroc-France, elle trouvera dans les jours qui viennent une solution.
Vous nous le garantissez donc là en ce moment pour celles et ceux qui s'interrogent.
Ah ouais, à 99%.
Bon.
De l'autre côté, par contre, c'est là où c'est
France-Maroc,
plus compliqué. Voilà, du côté France-Maroc, vous savez, les autorités marocaines, elles rigolent pas avec la question sanitaire et elles sont très strictes quand elles appliquent une décision. Rappelez-vous, l'année dernière, de mars jusqu'à juin, c'était totalement fermé complètement hermétique et ça avait provoqué des situations humaines dramatiques. Parce qu'il y avait beaucoup de Marocains qui étaient de passage en France,
oui,
qui sont retrouvés sans solution et qui sont restés bloqués en France.
Et là encore, est-ce qu'il y a des mesures concrètes concernant donc les Marocains qui sont coincés aujourd'hui en France ?
Oui, oui, il y a eu une dizaine de vols aujourd'hui de la Royal Air Maroc. Il y en aura beaucoup de, et la Air France aussi a augmenté sa cadence. Il y aura beaucoup de vols et je pense que ce sera suffisant pour répondre à la demande des Marocains bloqués en France ou des Français qui vivent au Maroc et qui sont bloqués en France.
Est-ce que monsieur le député, vous avez une plus de précision quant au délai, justement, de cette suspension des vols entre les deux pays ?
Écoutez, moi, ce que je m'apprête à dire à mes concitoyens, c'est attention parce que ça risque d'être durable. Durable, c'est-à-dire la dernière fois on l'a vécu 3 mois. Là, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez que le Maroc a levé son couvre-feu il y a à peine 2 semaines.
Oui.
C'était le dernier pays africain au monde, etc., à avoir un couvre-feu à 23h. Il est passé de 21h à 23h au mois d'octobre.
Oui.
Donc, les autorités marocaines, avec la question sanitaire, ils sont très, très stricts et ils essayent d'avoir une politique la plus ferme et la plus rigoureuse possible, sans aucune exception. Il n'y avait pas d'exception. Donc, faites attention quand même.
Oui.
Pour les personnes qui doivent aller au Maroc, ça, c'est la vraie question. Personnes qui sont bloquées au Maroc ou qui sont pour l'instant... Moi, je vous dis la vérité, mon papa, il est au Maroc. Donc, je l'ai eu, je lui ai dit, t'inquiète pas, il y aura certainement des vols dans les jours ou les semaines à venir, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous êtes français bloqué en France et que vous devez retourner au Maroc, ou que vous êtes marocain bloqué en France et que vous devez retourner au Maroc, là, par contre... pressez-vous, parce que si votre centre d'intérêt économique, familial se trouve au Maroc, là ça va être compliqué.
Eh bien merci monsieur le député d'avoir été avec nous. C'est une précision, autant dire précieuse, ce que vous nous apportez comme nouvelle, effectivement. On n'avait pas cette information, donc elle est primordiale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, monsieur le député ?
Ben, j'ai envie de leur dire de ne pas paniquer, parce que les autorités marocaines, les autorités françaises, on a de la chance, moi je suis binational franco-marocain, sont très, 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 très responsables. Et donc, en décalant la fermeture de vendredi soir à dimanche soir, ça laisse quand même 3 jours pour trouver des solutions, essayer d'avoir... Donc voilà, on a quand même des autorités. Mais à partir du moment où le Maroc va fermer, ce sera fermé et ce sera hermétique.
Bon,
voilà.
Eh bien, merci Mjid Al-Gherab. Vous êtes député de la 9e circonscription des Français. Merci infiniment pour toutes ces informations.
Merci, Adil.
Merci membre de la commission, notamment des affaires étrangères. 19h29, tiens, le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
On va retrouver le quoi de neuf dans une minute à peine. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'on peut dire sur les vols suspendus et
Alors déjà, effectivement...
Vous avez aussi d'autres informations, je sais.
Enfin, moi, j'avais des informations aussi rapidement que Mjid Al-Gherab, je crois, puisqu'elles viennent de l'ambassade du Maroc en France. Je crois que les autorités marocaines ont pris ça très au sérieux. Hein, il suffit de regarder les chiffres. Le taux de guérison au Maroc est exceptionnel, 98%, un taux de létalité très faible, 1,6%, avec un taux de vaccination qui est très bon, 22 millions de primo-vaccinés et un petit peu plus, 24 millions de totalement vaccinés. Donc le Maroc a fait le job, comme on dit, et il a du reste fait le job, puisqu'il faut rappeler que c'est le premier pays africain avec l'Égypte qui a été touché. Par contre, il prend très au sérieux le fait qu'il y a sans doute eu des failles dans l'accession sur le territoire national, eu égard à certains faux relevés sanitaires. Et c'est ce qui, je crois, motive la situation. D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que le comité interministériel qui régit les déplacements internationaux a pris cette décision sur pression des pilotes de ligne qui ne voulaient plus faire monter
ouais.
des personnes qui venaient de France. Et je précise peut-être une information supplémentaire,
oui.
Que ça concerne la France pour l'instant, mais que dans la foulée, ça concernera l'Espagne, ça concernera l'Italie, ça concernera la Belgique, et l'Allemagne.
Vous avez raison, parce que ça vient ça dès lundi, hein, d'ailleurs.
Le
vous avez raison de le souligner.
Hier,
parce
c'était
que ça
la France, mais maintenant, c'est tous les pays européens qui sont soumis à la même enseigne.
Moi, j'ai reçu, effectivement, un mail tout à l'heure précisant que ces pays que vous venez de citer, de l'Europe, eh bien, dès lundi, vont prendre des mesures comme la France. Certainement. En tout cas...
Enfin, c'est-à-dire que je reprécise aussi, en complément, c'est que les vols du Maroc vers ces pays seront fermés également aussi.
Donc, prenez vos précautions dès maintenant, si vous nous écoutez en dehors de la France, et effectivement, 19h31 et quelques minutes de retard, avant de retrouver les débatteurs concernant ce sujet qui est le Covid. Je sais que ça vous interpelle, notamment avec les autotests, le Covid, la troisième dose, mais notamment le naufrage. Le quoi de neuf ?
Les informés, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, comme chaque vendredi, c'est avec Michel Taube. Bonjour mon cher Michel Taube.
Bonsoir Adil et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM. Bonsoir.
Eh bien, vous êtes le patron d'Opinion Internationale, mon cher Michel Taube, pardon, et vous avez décidé de consacrer eh bien, votre billet d'humeur sur le naufrage à Calais, cette tragédie, on vous écoute.
Bah, en fait, je voulais un peu dénoncer cette surenchère politicienne là, qui actuellement oppose la France et le Royaume-Uni sur le dos de pauvres innocents que sont les migrants. Il y a eu 27 morts, effectivement, il y a 3 jours, mais combien ont disparu ces derniers mois, ces dernières années. Mais c'est vrai que là, on assiste à une sorte de dérapage politique qui va bien au-delà de la question humanitaire et qui est quand même assez inquiétante. Boris Johnson a grosso modo dit par une lettre qu'il a publiée sur Twitter à la France, bah, reprenez tous les migrants qui sont venus sur le sol britannique. Et Macron, qui était en visite à Rome où il rencontrait le pape ce matin, a répondu très sèchement que c'est de la rigolade et qu'il faut arrêter grosso modo de se foutre du monde, quoi, pour aller à l'essentiel. Donc il y a une vraie crispation qui se passe actuellement. Ça ne va pas aider à la gestion de la crise humanitaire que l'on vit actuellement dans cette région. Et puis finalement, moi, ce que je voulais dire, c'est que tout cela, c'est le résultat d'une incapacité de l'Europe à se doter d'une politique migratoire cohérente entre les pays qui sont prêts à ouvrir, on va dire, les frontières et ceux qui ne veulent surtout plus les ouvrir. On voit bien que l'Europe n'est pas unanime, certainement pas, mais n'arrive pas à fixer une voie commune. Et du coup, ça facilite évidemment des mouvements de population qui ne sont pas forcément maîtrisés, et ça nous amène à des drames comme ceux que l'on vit actuellement dans la Manche. Donc voilà, je pense qu'il faut que l'homme politique se ressaisisse, qu'ils arrêtent de s'opposer les uns aux autres et qu'ils se mettent autour d'une table pour essayer de trouver au moins des solutions humanitaires, voire des solutions plus définitives. Donc voilà, c'était plus un coup de gueule pour regretter ces instrumentalisations. On parle quand même de vies humaines. Il faut vraiment en prendre conscience, et la politique, c'est censé gérer les affaires humaines. Donc voilà, c'était pour regretter ce dérapage politicien sur le dos de personnes qui sont innocentes et qui malheureusement...
Et vous avez raison de le rappeler, effectivement.
...la misère et essayer, peut-être ont-ils tort, mais penser qu'en Angleterre, ils y trouveraient une vie meilleure.
Merci mon cher Michel Taube, vous êtes éditorialiste donc télévision, fondateur de l'Opinion Internationale, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour votre billet d'humeur, merci. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, un bon week-end ?
Ah ben bien sûr, et puis vous savez quoi, je vous le souhaite aussi.
Exactement, merci mon cher Michel Taube, à la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Merci.
Avant de marquer la pause, je vais d'abord faire un tour de table. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, bonjour.
Toujours président de l'IPSE, oui. On va pouvoir réagir à ce qu'a dit Michel tout à l'heure ? Enfin, tout à l'heure, on...
Bien sûr, c'est le sujet. C'est le sujet. Maître David Lemeskind, bonjour.
Bonjour.
Autre maître aussi de confrère. J'ai pas fait exprès, je
vous le dis. Non, mais si, j'ai remarqué qu'ils sont
maître
de partie
Fabrice
de la table.
Maître Fabrice Divisio.
C'est remarquable.
Que je ne présente même plus, d'ailleurs. Comment ça va ?
Ça va bien.
Vous savez que ça me fait plaisir que vous soyez parmi nous ce soir.
Moi aussi.
Ben voilà, écoutez, partagez. Amine Triad, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Je m'excuse pour le retard. Maître de moi-même.
Aucun souci. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment ? Je sais que vous avez reçu des menaces de mort. Je sais que vous avez reçu des intimidations. Je sais. Dans quel état d'esprit vous êtes, mon cher maître Divisio, en ce moment ?
Bon, fou.
Vraiment ?
C'est la frustration.
Non, mais vu ton esprit, je ne me laisserai pas ravir l'espérance.
Ah.
Voilà, si vous voulez tout savoir, je je ne me laisserai pas ravir. Le pire qui puisse arriver, c'est de se laisser
ravir. Où en êtes-vous sur votre actualité en ce moment ?
Mon actualité, c'est...
Oui, parce que je sais, vous vouliez vous plaquer, vous vouliez vous mettre en off.
Non, j'ai dit que je plaquais ma vie publique, et si vous remarquez, je suis vachement moins présent.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai dit, effectivement, que je prendrais du temps, en particulier pour ma fille, pour continuer à l'entraîner à cheval. Et par ailleurs, effectivement, que j'étais en train de vendre mes parts. Mais ce que la presse n'a toujours pas compris, c'est que vendre des parts sociales, ça ne se fait pas en 15 jours.
Non.
Que ça s'évalue, et que j'ai des associés, et que ça se discute un petit peu le prix des parts, quand même.
Quelle décision !
Mais que je continue de dire que moi, je veux partir. Hein.
Ouais.
Et comme mon ordre veut que je parte aussi, tout le monde est content.
Tout le monde se pose la question avant de lancer l'impub, vous voulez faire de la politique ?
C'est
ce qui se dit.
Ben c'est vrai.
C'est vrai.
Ben je rappelle que je suis candidat à une élection législative. Oui.
Absolument. Ouais. Vous avez envie d'avoir la
quelle circonscription ?
Quelle circonscription ? 93.
Saint-Denis.
Ça y est, c'est lancé.
Ben ça a toujours été le cas.
Les auditeurs du 93, maître de Fabrice Divisio.
Pas tout de suite, mais bon, il faut préparer.
Mais attendez, c'est maintenant que ça se prépare.
Oui.
Vous êtes déterminé. Hein.
Oui, toujours.
C'est en quelque
insoumis.
Sorte.
Insoumis. Est-il insoumis ?
C'est en quelque sorte. Plus maître insoumis. Fabrice Divisio, si la savoir, grande gueule qui arrive.
Si vous voulez savoir, je suis plus insoumis qu'en marche.
Ah ouais, ben ça laisse un large.
Quelle étiquette
bah, justement, sans je vous ai posé la question subtilement. Ah bon,
pub, et on se retrouve avec maître Divisio, maître David Lembiskind, Emmanuel Dupuis.
Maître Dupuis et
maître Schriette. Que des maîtres. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, tout de suite, 19h42 avec maître David Lembiskind. Bonjour,
rebonjour.
Emmanuel Dupuis, le président de l'IPSE qui est avec nous. Maître Fabrice Divisio, qui avait disparu, qui réapparaît. C'est une bonne chose. Amil Triet, géopolitologue. Tout de suite, c'est parti. C'est ça, c'est les gens.
Je être fier.
Les informés. Le face-à-face.
Voilà. J'ai pas entendu.
Vous devez dire que le maître Divisio n'apparaît que chez vous.
Que chez vous. Mais c'est vrai, on est fiers, mais c'est juste ce que je lui ai dit. Je lui ai dit merci d'être là. Donc désormais, on sait qu'il est candidat sur le département du 93, donc candidat aux législatives, dans quelques mois. Ça, on le sait, donc on vous retrouvera régulièrement ici, évidemment, dans les informés pour en parler. Alors, s'il vous plaît, je voudrais simplement qu'on réagisse par rapport, évidemment, au Covid. Le Covid, vous savez, désormais, le Covid-19 à l'école, les élèves de 6e, eh bien, vous savez quoi, ils devront réaliser 2 autotests par semaine.
Non, c'est pas obligatoire.
En tout cas, ça a été précisé.
Le ministre a précisé.
Alors, maître Divisio.
Le ministre a précisé cet après-midi que c'était pas obligatoire. Bon, alors, je n'exclus pas qu'il change d'avis dans une semaine, vu la propension qu'a ce gouvernement à avoir une parole publique qui dure plus de 2 jours.
Ces deux ministres-là en particulier.
Je veux dire, et en fait, voilà, donc l'idée, c'est 2 autotests par semaine. Pour les moins de 12 ans, enfin pour les 11 ans finalement, les 6e quoi.
5 ans à 11 ans.
5 ans à 11 ans, ça. Puisque effectivement ils ne sont pas éligibles, j'aime bien ce mot de éligible, au vaccin. Je ne sais pas qui a élu qui, mais et donc voilà.
Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ?
Je vous vois bien. Non mais c'est la parole d'un ministre.
Maître David Lembiskind.
La parole d'un ministre ne crée pas le droit. Pour l'instant,
normalement.
Voilà. Là pour l'instant, je crois que tu seras d'accord avec moi. Il y a aucun texte réglementaire qui a été pris, quoi.
Non, le seul texte réglementaire.
Oui, voilà.
Sauf que là, ils sont un peu en panique. Ils se disent voilà, il y a une espèce de montée, un regain de l'épidémie du Covid-19. Donc du coup, panique à bord. Et on doit tester absolument les enfants parce que les enfants transmettent le virus.
La question des enfants
transmettraient le virus.
Mais il y a une grande étude en fait, la plus grande étude qui a été réalisée en Italie, tant à montrer, qui a été publiée au Lancet il y a maintenant quelques mois. Tend à nuancer très fortement le caractère transmetteur des enfants jusqu'à, en gros, 18-20 ans. Quand même, ils vont jusque-là. J'ai pas la vérité en la matière, mais je dis que transmettrait paraît effectivement sans doute plus judicieux que transmettre. Parce que transmettrait, et dans quelle proportion, c'est une grande question. Mais quoi qu'il en soit, le problème qui se pose, en fait, il y en a deux. Il y a un problème scientifique et il y a un problème politique. Sur le plan politique, il y a quand même une vraie question. C'est est-ce que ce gouvernement a une stratégie de lutte contre le virus ? C'est quand même une question qu'on peut raisonnablement se poser.
Et la réponse ?
La réponse est manifestement non. Pourquoi ? Parce que, quand même, ce qui caractérise un état de droit, c'est la constance de la parole publique. Et le droit le qualifie d'ailleurs dans la confiance légitime. La confiance légitime que peuvent avoir les citoyens dans leur gouvernement. La confiance, elle suppose de ne pas changer de position toutes les 10 minutes. Moi, je ne dis pas, encore une fois, je vais être magnanime pour une fois.
Oui.
En disant que, mon Dieu, Je veux dire, le pass sanitaire, je suis radicalement contre, je pense que tout le monde l'aura compris, ça. Mais,
ça, on l'a saisi.
Mais pour le coup, ce que j'accepte encore moins, c'est qu'on me dise non, il n'y aura pas de pass sanitaire, puis finalement, il y en a un. La troisième dose pour le pass sanitaire, non, en juillet, puis finalement, oui, en novembre. On ne peut pas gérer un État comme ça. On ne peut pas, à un moment donné, avoir une parole
alors justement,
qui change tous les trois mois.
Peut-être qu'il y a des, non, mais il y a d'autres voix, celles évidemment de débatteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ma division ou pas du tout?
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je vais rajouter deux autres éléments. Ce qu'on attend des gouvernements.
Ah, vous êtes d'accord avec la manière dont le gouvernement gère?
Je suis d'accord avec Maître Divisio. Je ne sais pas si je suis d'accord avec Maître Véran.
On vous écoute.
Ou avec le bon professeur Blanquer. Je pense que ce qu'un gouvernement devrait faire, c'est agir en responsabilité et avoir le courage d'assumer ces décisions et non pas de dire c'est pas nous qui décidons, parce qu'accessoirement c'est effectivement dépolitiser une responsabilité. Un gouvernement doit prendre des décisions. Il peut prendre de mauvaises décisions. Angela Merkel, d'ailleurs, prenons cet exemple. Angela Merkel a avoué que parfois elle avait été induite en erreur. Elle a avoué. Ce gouvernement dit absolument le contraire en disant j'ai raison aujourd'hui comme hier. Dans le déni, comme dans la pseudo-vérité. C'est ça qu'on peut reprocher. Moi, j'aime bien cette notion de cette linéarité. On attend d'un gouvernement qui ne se dédie pas, qui ne se récuse pas en permanence. Or, il se trouve qu'il y a 4 mois, mot pour mot, Olivier Véran disait le contraire de ce qu'il a dit hier. C'est ça qui est grave.
Alors,
et qui, accessoirement,
on poursuit.
Et je termine, qui, accessoirement, ben, peut légitimement, pour certains, induire une sorte de doute dans toute la stratégie qu'a pratiqué le gouvernement.
Maître David,
alors, j'ai deux éléments importants à rajouter. D'abord, la décision en fait du ministre n'a aucune assise scientifique, parce que je rappelle que quand même le Sénat avait saisi en fait le 4 août dernier le Haut Conseil de la Santé publique sur le dépistage en milieu scolaire. Et qu'est-ce qu'il avait répondu, ce Haut Conseil? Ben, il avait recommandé justement de ne pas mettre en place des campagnes systématiques de dépistage dans le milieu scolaire. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pour rester un petit peu dans cette perspective scientifique, vous aviez la Société française de pédiatrie, alors je me rappelle plus de la date, c'était cette année ou l'année dernière, qui justement indiquait que si on mettait un dépistage systématique en milieu scolaire du Covid, bah, ça créerait en fait des messages anxiogènes, parce qu'il faut pas oublier.
C'est pas faux, c'est pas
voilà.
Faux.
Non, non, mais il faut pas. Et d'ailleurs, beaucoup de psychologues le disent aussi. Il faut, faut pas oublier que ce sont des enfants ou des adolescents. Je veux dire, c'est un paramètre à prendre en compte. Et puis, dernier élément, je crois qui va choquer mon confrère. Il y a quand même violation du secret médical.
Mais c'est évident. Enfin, je veux dire, ça, c'est un point.
Maître Divisio.
Non, mais attendez, excusez-moi, mais là, on nage en plein délire, quoi. On nage en plein délire. Alors, ce qui m'étonne dans ce pays, c'est qu'en fait, on est dans le pays de la transparence. Secret médical, ça n'existe plus. Secret de la confession, on en discute. Secret de l'avocat, on n'en parle plus. Par contre, le secret défense, lui, c'est manifestement, effectivement, le gouvernement tient beaucoup à son secret. Le secret des autres, il n'aime pas beaucoup, mais le sien, il l'aime bien. Parce que quand même, à un moment donné, sur le secret médical, je rappelle quand même que le Conseil constitutionnel, à propos de la transmission des fichiers des non-vaccinés aux enseignants, enfin, au directeur d'établissement, avait dit hop.
Que dit l'avocat?
Retoqué. Là, le Conseil constitutionnel.
Que dit l'avocat que vous êtes?
L'avocat dit qu'on est en pleine violation du secret médical. Et puis, l'avocat dit aussi que est-ce que le boulot des enseignants.
Vous êtes d'accord
à
aussi,
un moment donné.
Oui, tout à fait.
Est-ce que le boulot des enseignants, c'est vraiment de venir recevoir des. Mais je veux dire ce qui se dessine derrière ça. Personne n'est dupe. Enfin, soyons réalistes. Je reprends effectivement cette idée, c'est que derrière, on va encore avoir un changement de position dans 2 mois, parce que les positions du HCSP ne sont absolument pas inconnues par le gouvernement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans 2 mois, on va nous dire, vous voyez, c'était pas possible, en fait. Donc, on est obligé d'aller à l'obligation vaccinale généralisée, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Or, c'est vers ça qu'il tend.
Vous êtes convaincu de ça?
Mais bien sûr.
Dans 2 mois, c'est vaccin obligatoire.
Oui.
Donc, on passe du pass sanitaire au pass vaccinal.
Et oui, regardez, le test PCR,
répondez-moi, s'il vous plaît.
Sera valable.
On passe du pass sanitaire au pass vaccinal.
Mais bien sûr.
C'est
bien sûr.
Dans 2 mois, vous êtes certain.
Et vous en voulez une raison? Je vais vous donner une raison très simple.
Dites-nous, on est là pour ça.
Les soignants et la troisième dose. Ceux qui refusent la troisième dose, les soignants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Être suspendus aussi? Il va falloir apprendre tous les choses de première school, alors, parce que il n'y aura plus de soignants dans ce pays. Parce que la troisième dose dans les soignants, moi je le vois dans mon cabinet, elle est loin. La deuxième dose, elle n'a pas fait l'unanimité. Enfin, le vaccin tout court n'a pas fait l'unanimité. Ok, on a dit ils sont minoritaires, tout ce qu'on veut. Mais minoritaires, quand même suffisamment pour avoir des problèmes dans les hôpitaux. Mais, je veux dire, là, moi je suis super étonné du nombre de mails qu'on reçoit depuis 4-5 jours, où on nous dit, je ne ferai pas la troisième dose.
Oui.
Donc des gens qui
c'est vrai, il y a beaucoup de réticences. C'est vrai.
Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces soignants?
Amel Triette. Amesriette, pardon, on ne l'a pas entendu. Amesriette, et ensuite on passe au quatrième, au second sujet, s'il vous plaît, sur le naufrage. Je veux vraiment qu'on en parle. C'est très, très important, évidemment, de parler de cette tragédie.
Je crois effectivement qu'on peut critiquer le gouvernement sur sa gestion globalement. Il y a eu effectivement des lacunes, des ratés sur la question du masque, souvenons-nous, etc., avec la porte-parole. Et du coup, ça a créé effectivement.
Prenez l'autre micro, s'il vous plaît, parce que le vôtre, évidemment, nous lâche.
Je disais effectivement qu'on peut effectivement critiquer le gouvernement. Il y a eu des lacunes sur la gestion du gouvernement au tout début, notamment sur la question des masques, etc. Mais je pense qu'il faut avoir la modestie et aussi l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est un virus qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Non mais attends.
Ça change pas.
Il
n'est pas obligé de mentir en permanence.
Voilà. Et qu'effectivement. Aujourd'hui, lutter contre ce virus-là, effectivement, n'est pas facile aujourd'hui. Sur le long terme, sur une stratégie de long terme. Lorsqu'on constate au niveau international. Est-ce que je peux terminer une phrase? J'ai pas parlé. Il coupe la parole.
Alors attendez, allez-y jusqu'au bout.
Lorsqu'on voit au niveau international, effectivement, la gestion des États, on constate que la France n'est pas mauvaise élève. Ouais. Sincèrement.
Mais vous rigolez ou quoi?
Sur la question des morts, je suis d'accord avec vous.
Vous n'avez pas lu les classements sur la question de la gestion de la.
Mais aujourd'hui, sur la question de la vaccination, Israël vaccine aussi les enfants, etc. Donc, à un moment donné, je veux dire, aujourd'hui, on a des nouveaux traitements, on doit s'en réjouir. Il y a des nouveaux traitements.
Mais inefficaces, ils sont inefficaces.
Je ne suis pas scientifique.
On nous a présenté le vaccin comme une solution miracle.
Non, on n'a pas dit que c'était une solution miracle. On nous a présenté le vaccin. Le vaccin a agi quand même contre la sang. Ce que tu peux dire, Fabrice, et moi, je sais pas si tu partages ça, c'est que le vaccin, quand même, le vaccin a permis aussi d'endiguer cette cinquième vague et de maîtriser quand même.
Attendez, tu me parles.
Maître Division. Laissez-le, s'il vous plaît. Maître Division.
C'est extraordinaire. La cinquième vague, elle n'est pas encore commencée, qu'elle est déjà endiguée. C'est plus facile d'endiguer s'il commence pas. Ça, je suis d'accord. La quatrième, je sais pas où elle est.
Sachant qu'il n'y a pas eu quatrième vague.
Je vais pas passer à la quatrième non plus, je la cherche encore.
Ah, mais les hôpitaux.
On arrête là. À la fin, ça devient effectivement la haute mer, ce truc-là. C'est l'océan Indien, ce truc. C'est vraiment.
Non, mais ce qui est fascinant dans cette crise.
Le vaccin a permis de lutter quand même.
Ce qui est fascinant dans cette crise, c'est que.
Il vous dit que le vaccin a permis de lutter contre
le virus quand même, de stopper l'épidémie quand même. Tu l'as dit quand même.
L'épidémie n'est pas stoppée puisqu'elle.
Vous le disiez vous-même, Duhamel et Dupuy. Grâce au vaccin, vous l'avez dit même dans ce micro.
Grâce au vaccin, les comorbidités et les effets du virus sont diminués. J'ai jamais dit
que
le vaccin va arrêter le virus.
Ah ben non, personne ne dit.
C'est que à ce moment-là, il faudrait qu'une seule dose et non pas 4, 6, 10, 20 dans 20 ans.
Mais personne ne le dit.
Ce n'est pas un vaccin.
Personne ne le dit.
C'est un plastron qui a été utilisé pour donner l'impression que l'on répondait à une crise. C'est tout. Parce qu'on n'en sait rien. Alors, l'idée selon laquelle le gouvernement français fait bien son travail, c'est faux. Il ne le fait pas mieux.
Il dit sur la gestion, il essaye de faire de son mieux par rapport aux autres pays.
Il n'y a pas de gestion, c'est ça le problème.
Il n'y a aucune gestion.
Alors, attendez. Maître David Leminski, s'il vous plaît.
On nous a présenté le vaccin comme une solution miracle. Vous allez tous être guéris. Résultat, l'épidémie existe toujours. Résultat, vous avez parlé du cas Israël, en fait, une bonne partie des personnes contaminées étaient déjà vaccinées deux fois. Donc,
oui, mais c'est pas des cas de comorbidité.
Il vous répond, attends, je finis.
C'est que le gouvernement n'a pas d'humilité. Il devrait dire, voilà, on ne sait pas. Non, il nous présente en fait des mesures en disant que ça va indiquer la pandémie et à chaque fois ça foire. Donc,
non, mais comme a rappelé Emmanuel et son noté intellectuel que je remercie, c'est que le vaccin permet aussi, de ne pas aller à l'hôpital,
permettrait de ne pas être hospitalisé.
Donc ça évite aussi C'est prouvé scientifiquement sur les hospitalisations.
On ne sera pas d'accord. On va passer à ce second sujet.
Les gens qui sont vaccinés ont 8 fois ou 9 mois de chance.
Calais qui est sous le choc après le naufrage de migrants. C'est le plus meurtrier, je vous le rappelle, jamais connu dans la Manche, un tour de table. On se renvoie la balle en permanence. Vous avez vu la lettre de Johnson, le Premier ministre, qui écrit à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, évidemment, qui était offusqué de cette lettre, l'a un peu retoqué. Donc, tour de table, qui doit retoquer qui? Qui a raison? Et c'est malheureux, évidemment, c'est tragique, 27 morts.
C'est pas d'abord,
Maître David.
Non, c'est pas d'abord, c'est malheureux.
C'est malheureux. C'est malheureux. Vous avez raison.
C'est malheureux au début, c'est malheureux. Allez-y, Maître David. C'est malheureux au milieu. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a du malheur dans l'histoire. Et que moi, je trouve que faire de la politique sur le malheur des gens, dire en premier, c'est déjà cynique. Et que je pense en avoir un peu assez, si vous voulez, du cynisme en politique. C'est d'abord ça, mon premier propos.
C'est le cynisme.
Et que, qu'après, il y a des solutions, qu'il y a des problèmes, tout ça. Et si on commençait déjà par faire silence, et commençait par respecter la mémoire de ces morts, ils sont à peine... je veux dire, finalement, ils sont à peine morts, oserais-je dire, presque.
Donc cet échange concernant ce courrier, c'est quoi ? C'est scandaleux ?
Non, c'est indigne.
Indigne.
On a le droit, à un moment donné...
Moi, j'avoue que ça m'a surpris.
Moi, je suis surtout... Je suis peiné, d'abord. Je suis blessé, en fait, d'abord. Humainement blessé, parce qu'il y a d'abord un drame humain, et que la politique, elle est d'abord là pour s'effacer devant les drames humains et venir effectivement faire silence et reconnaître ces drames. Après, Dieu sait ce qu'on dit à chaque fois que Éric Zemmour ou je sais pas qui, Marine Le Pen, peu importe, Mélenchon, font de la face de la politique sur le dos des victimes. Et ben, c'est exactement ce qu'on fait ici. On fait de la politique sur le dos des victimes.
Ouais. Emmanuel Dupuis.
Alors, qu'est-ce qui vous a choqué ? La lettre ou la manière dont la lettre a été rendue publique ? Parce qu'il est vrai qu'entre chef d'État et de gouvernement, tweeter une réponse d'un président, ça nous ramène quand même à ce qu'on a critiqué pendant la période de Donald Trump. À un moment ou un autre, on doit parler sérieusement parce que Maître Divisio a raison, c'est de la désespérance humaine, il y a des victimes et bien évidemment, nous devons nous incliner devant ces victimes. Je crois que c'est ce que le pape a dit au président Macron aujourd'hui en disant, peu importe la polémique, ce sont des humains qui ont perdu la vie. Une phrase peut-être, une
dernière, s'il vous plaît, allez-y.
Non, mais je crois que derrière cette histoire, c'est pas seulement la question des migrants. C'est que les deux présidents, enfin pardon, le Premier ministre et le Président, sont rentrés dans une logique de confrontation qui sert leur politique intérieure. Boris Johnson est très affaibli politiquement, et le Président Emmanuel Macron a besoin d'arriver fort dans quelques semaines quand il présidera le Conseil de l'Union Européenne.
Maître David Lemeskind, qu'on n'a pas entendu, en Monsieur Tamitriet,
s'il vous plaît. Je ne peux que rejoindre de ce qui a été dit, c'est quand même pitoyable. On assiste à un spectacle entre... entre deux...
On le dit tous, hein.
Entre quasiment, non mais entre voilà entre un chef d'État et un premier ministre qui est voilà c'est pitoyable. Ils peuvent avoir des désaccords, ça il y a aucun souci. Mais dans ce cas-là, ils le mettent pas publiquement parce que il y a, je veux dire, c'est une tragédie humaine parce qu'il y a des enfants qui sont décédés. Quand on parle des migrants, il y a des femmes, des hommes, voilà, et des enfants. Et moi, je ne comprends pas, mais bon, de toute façon, on va sans doute
apprendre. 200 associations, voilà, 200 militants associatifs se sont, d'ailleurs, associations habitants se sont rassemblés, donc, il y a quelques jours pour leur rendre hommage.
Et c'est un problème qui dure depuis 20 ans, donc, il faudra peut-être le résoudre, quoi.
Complètement.
Moi, je crois que depuis les accords de Touquet, ça fait environ 20 ans qu'aujourd'hui, il y a une crispation entre le Royaume-Uni et la France, hein, au-delà même de Boris Johnson. On sait très bien qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les Anglais ont payé plus de 60 millions pour que la France puisse gérer cette frontière-là. Au lieu de traiter les causes, au lieu de traiter les conséquences, il faut traiter les causes sur la question de l'immigration. La plupart des migrants qui sont morts sont d'origine kurde, venus d'Irak et d'Iran. On sait qu'il y a des bouleversements géopolitiques et géoéconomiques dans ces régions-là, donc il va falloir traiter ces questions-là aussi.
Merci à Mitch Rey, géopolitologue. Merci à David, donc Maître David, pardon, Lemeskind.
Ouais.
Vous reviendrez ?
Oui, bien sûr.
Bah, vous avez évidemment toute votre place ici. Emmanuel Dupuis, bah, c'est notre habitué, hein, débatteur.
Moi aussi, j'ai mon rond de serviette ici. J'en abuse.
Alors, Maître Fabrice Divisio, je vous retrouve quand ?
Demain matin.
Bientôt ?
Bientôt. Demain matin.
Ah, demain matin, je ne suis pas à l'antenne. Ah bah, c'est le week-end.
Autour d'un
week-end.
Café, qui
sait. En tout cas, je sais. Quelle est votre prochaine actualité ? Votre prochaine actualité ?
Alors, la prochaine actualité, c'est le Noël des soignants suspendus. On organise un grand Noël des soignants suspendus. Voilà.
Eh bien, bravo. Il est candidat dans le département du 93. Merci à Yanis à la réalisation. Tout de suite, Bilal Nenman et son équipe concernant le Time Sport. 20h-21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. On ne lâche rien. À lundi prochain. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.